One, two. Voilà, 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 voilà. Donc, gloire à Dieu. C'est l'autre jour, je regardais, c'était quoi, France 2, et juste après les actualités, à 1h15, il y avait une émission sur les camionneurs. Et ça m'avait vraiment impressionné de voir la discipline des gens qui se levaient chaque jour et de voir l'histoire de chacun, leurs soucis, leur vie. Et j'aime bien voir des qui dévoilent la journée de quelqu'un. On voit une femme qui conduisait un grand camion et après elle devait tirer les bâches, charger. J'ai dit, mais quelle discipline, quelle... Voilà, d'un côté, elle avait beaucoup de mérite. Et après, il y avait un autre gars, il avait roulé toute sa vie en camion. Et donc, c'est bien, quelquefois, j'aime bien ces émissions qui dévoilent la journée de quelqu'un. Et donc, faut imaginer qu'on va ouvrir la Bible, mais il faut imaginer un appareil, un caméra, et on va découvrir une journée type de Jésus. D'accord? Journée type de Jésus. C'est pas un camionneur, hein, c'est... Il n'est pas en grève et il n'est pas contre l'écotaxe, hein? Je sais pas. Mais il faut regarder en Luc chapitre 6 et à partir de verset 12. Luc chapitre 6 à partir de verset 12. Et comme j'avais vu dans cette femme hier, combien elle était disciplinée. Je pense aujourd'hui, s'il y a un message à saisir, c'est les trois disciplines de Jésus dans sa journée. Et si on voit trois disciplines dans la vie de Jésus, ça peut être aussi trois disciplines pour nos propres vies. On n'est pas exactement comme Jésus, hein, et on n'est pas à la hauteur, mais quand même, c'est un exemple à suivre, trois disciplines. Donc je vais lire le texte avant, hein. Donc voilà, on arrive avec notre caméra, on essaie d'imaginer la vie de Jésus. Et donc, partir de verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors il levait les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux, vous les pauvres !» Car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Et donc, j'aime beaucoup ce passage, parce que ça commence dans la nuit. Ça commence à la fin de la journée. Et après, on a un matin. Et après, on a un après-midi. C'est une journée type de Jésus. C'est nos jours commencent avec l'aube. On dit, il y a le jour, il y a la nuit. Mais ce qui est beau dans la vie de Jésus, ça commençait un peu la nuit. C'est comme la création. Il y avait un jour, il y avait une soir, il y avait... C'est beau de voir ça. Et donc, trois disciplines. On voit trois choses dans ce passage. Hein. Je vous le donne, trois choses. On voit la discipline de Jésus, la discipline de la solitude, de chercher seul son pain chez le Père. Voilà, d'entretenir dans la solitude la relation avec son Père. Après, on voit la discipline de la vie communautaire. Après, il a appelé ses disciples à lui.
Parce qu'on ne peut pas toujours rester sur la montagne. Hein. Il faut descendre. Il y a des gars, il y avait Simon, il y avait des personnes ordinaires. Donc, la deuxième partie, et ça, c'était dans la journée, surtout le matin, la vie communautaire. Et la troisième chose, c'est son ministère, la discipline du ministère, d'avoir une vie où tu sers des autres, où il y avait des foules. Il y avait des foules. Et là, Jésus était là pour servir les foules. Et donc, trois choses dans notre vie. Les moments de solitude, il faut vraiment trouver le temps. Hein. C'est dur. Il faut être discipliné. Hein, discipliné. Et après, vie communautaire. Discipline de vivre avec des autres. Et troisième chose, ministère. Hein. On va vers l'extérieur. Et je vais parler de chaque chose. Hein. La solitude. Vous savez, si vous avez déjà assisté à mes prêches, j'ai un thème. Hein. C'est, voilà, vous montez sur la montagne, et voilà, ça, c'est facile de partir. Hein. C'est le début de la course, c'est toujours facile, le début de la marche. Mais après, ça devient un peu chaud, et c'est un peu difficile, c'est un peu ardu, c'est comme la vie. C'est facile de commencer, mais il y a des moments très difficiles. Et je me demande si Jésus, en grimpant la montagne, il se posait une question. Mais Père, est-ce que tu m'aimes? Vous savez, il y a les pharisiens, ils me rejettent, il y a des difficultés autour de moi, et je vois l'ombre d'une croix quand même qui se projette sur l'horizon. M'aimes-tu? Et c'est sûr que lui, dans son oreille, oui, il entend, oui, 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 oui. Et c'est ça le but de ces moments de solitude, c'est d'entendre le oui de Dieu, je t'aime mon enfant, je t'aime mon fils. Quand tu te poses la question, m'aimes-tu, sache avec certitude que la réponse est oui, même si ce oui est loin de ton expérience. Parce que Jésus, quelquefois, d'entendre, voilà, ça, dans son expérience, il souffrait. Mais quelque part, c'est une chose très difficile à faire. C'est pas facile, dans ce monde, d'entendre ce oui de Dieu. C'est très dur. Je dis pas, oh oui, c'est super, c'est facile. Non, c'est très dur. Très dur. Mais on est appelé à ça. C'est notre défi. Chaque jour. Mais est-ce que tu m'aimes? Oh, avec toute cette huile qui tombe sur ma tête. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et ce passage de Luc, hein, Luc 3, 22. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Bien-aimé. Objet de mon affection. Et donc, je pense que c'est pour ça que Jésus, il devait monter. Il devait choisir ces moments de solitude pour entretenir l'intimité et pour écouter la voix de son Père. Donc, et après, après ces moments-là, il était fortifié. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers les autres. Mais ce n'était pas des foules, c'était des disciples qu'il choisissait. Il a choisi de construire une vie communautaire. Et c'est ça la vie de l'Église, je dirais, pour nous. Voilà, c'est pas les foules, on n'a pas dit, voilà, venez, venez, en hauchant toutes les foules qui sont là. Mais c'est les gens qui ont choisi de marcher ensemble avec un but. Et c'est souvent un petit groupe. On n'est pas encore dans des méga églises de 20 000. Hein, mais c'est là, la vie communautaire. Mais Jésus, il a choisi 12 personnes. Ils avaient des noms, des gars ici, Simon, André. Bon, on connaît un peu ceux qui sont connus, hein, Simon-Pierre. Mais bon, Barthélemy, je ne connais pas trop, hein, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et Matthias, Thomas, bon, on connaît Thomas, il doutait un peu là. Et, bon, il y avait un autre Simon, hein, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Et bon, il y avait Jacques, hein, heureusement. Hein. C'est pas toi, hein, d'accord. Et donc, j'aime beaucoup ça parce que derrière ces noms, il y a toutes des histoires, il y a des hommes ordinaires, des hommes et des femmes. Bon, il n'y avait pas des femmes à l'époque, il y avait quand même Marie-Madeleine. Et, on avait déjà vu qu'il y avait des femmes dans son équipe. Aujourd'hui, des femmes font partie de la vie communautaire autour de Jésus. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Judas, qui devient traître. Waouh ! Dans la vie communautaire. C'est quelqu'un a défini une fois que la communauté est le lieu où la personne avec qui tu n'aimerais pas habiter, habite. C'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, et peut-être toi tu es pour cette personne, la personne avec qui il veut vraiment pas vivre. Et je pense que Dieu il a beaucoup d'humour quelquefois, parce qu'il met les gens ensemble où ça grince un peu. Et il y a une vraie discipline dans la vie communautaire. Et de vivre ensemble, quelle entreprise, quelle folie de vivre ensemble. Et vivre ensemble, on est tous voués à une vie communautaire, même avec Facebook, même avec les relations virtuelles. On est quand même obligés de se croiser un petit peu les uns les autres, même tout, chaque couple, hein, que vous êtes en, votre partenaire est là et vous êtes obligés de vivre avec, si c'est votre petit ami, votre mari, votre concubin, tout. On est quand même attiré à cette vie communautaire. C'est le propre de l'homme et de la femme de vivre ensemble. Et déjà dans la famille, c'est la vie communautaire. Déjà ça commence là. C'est facile, n'est-ce pas, de vivre en communauté avec des enfants, des parents, tout ça. Non, c'est terrible quelquefois. Mais on est appelé à ça. Jésus, il vit. Moi, je pense pas que c'était toujours la vie facile pour Jésus avec ses disciples. Et en tout cas, il y avait Judas bien au milieu qui se servait dans le trésor. Tu sais, il faisait des collègues, lui, il prenait un peu pour lui-même. Et après, il y avait beaucoup de gens qui. Je vois Simon le Zélote. Quand tu as les gens remplis, Simon le Zélote, tellement enthousiaste. Je suis sûr que Jean, qui était un peu, je sais pas. Et après, il y avait qui? Il y avait Jean et Jacques. Ils voulaient appeler la foudre pour tuer les gens. Ils nous ont pas accueillis. Allez, on va prier, on va. Non, mais merci. Jésus devait vivre avec ces gens. Ils n'étaient pas des petits agneaux. Voilà. Oui, Jésus. Ça a dû être dur quelquefois. Il comprenait rien. Vous voyez l'enseignement, Jésus, il enseigne. Voilà, il comprenait rien. Non mais et dans la communauté, on a envie d'être compris. Mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Ouais, mais ça, c'est le propre de la vie communautaire. Quelquefois, on n'est pas toujours compris. Et c'est là où pour vraiment vivre la vie communautaire, il y a deux piliers pour la vie communautaire, pour n'importe quelle communauté. Et c'est des choses pas faciles encore. C'est le pardon et la célébration. Le pardon et la célébration. Laissez-moi expliquer un peu le pardon. Parce que, c'est grand comme ça, comme sujet, mais je veux juste me focaliser sur une petite partie de ça. Il faut voir, avant d'entrer dans la vie communautaire, Jésus a passé des heures à écouter une voix qui disait « Je t'aime ». D'accord ? C'est très très important. D'accord ? Il n'est pas venu toute nue à la vie communautaire. Tu vois, il n'a pas venu « Je suis rempli de besoins. Je cherche quelqu'un qui m'aime. Même moi. J'ai une déficience affective en moi. J'ai besoin d'être aimé. » Il n'est pas arrivé comme ça. C'est pas comme nous, hein. Quelquefois, on passe pas un moment de solitude. On se sent cassé, on se sent rejeté par nos parents, par tout le reste. La vie est comme ça. Et donc, quelquefois, nous, on veut la communauté pour, enfin quelqu'un pour m'aimer. Et on prend la vie communautaire comme une vraie raison d'être. Comme quelque chose pour nous nourrir. Même un mariage, je dirais. S'il y a deux personnes. Et bon, c'est comme ça. Dans la plupart des cas, on a une personne qui dit il me manque quelque chose, et l'autre il me manque quelque chose. On est deux moitiés, et donc on va faire un cercle. Mais ça doit pas être comme ça. Ça doit être moi, j'ai entendu le oui, je sais que je suis aimé, et l'autre qui dit oui, moi aussi j'ai entendu le oui. Donc on va être deux êtres entiers qui se mettent ensemble pour chasser mille. On va pas être un, on va être une multiplication de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui arrive en communauté, bon, je parle de mari-femme, mais ça peut être le pasteur avec sa communauté, voilà. Et on cherche, tu sais, l'autre n'est pas Dieu. Voilà. Si je vais dire ça, l'autre n'est pas Dieu. Et le jour où vous comprenez ça, vous êtes libéré de beaucoup de choses. L'autre n'est pas Dieu. Et moi, je dois pardonner à l'autre de ne pas être Dieu. D'accord? C'est tout bête. Mais un de mes plus grands devoirs, le pardon, le premier pardon, c'est de dire, Sylviane, elle est où? Elle est partie. Hein, je peux dire tout ce que je veux. Sylviane, je te pardonne parce que tu n'es pas Dieu. D'accord? Elle dit, mais c'est évident. Mais c'est pas toujours évident parce que souvent, on est tellement affamé pour l'affection que la personne doit tout pouvoir. Et cette personne est il n'y a pas une seule personne qui peut combler tes besoins. Et quand la personne comble pas tes besoins, tu vas être offusqué. Et c'est pour ça, il n'y a qu'une seule personne qui est Dieu, c'est Dieu, le Père, qui peut t'aimer. Et après, avec ce bagage, tu entres en communauté. Par exemple, le pasteur. Combien de pasteurs? Moi, je suis pas Dieu. Hein. C'est évident. Hein. Mais moi, je peux pas même répondre à tous vos besoins affectifs. Ah, le pasteur n'est pas venu me visiter ou quelque chose. Et moi, et après, il n'a pas la puissance parce qu'il n'y a rien qui est sorti de lui pour régler tous mes problèmes. Oh, il m'aime pas. Il m'aime pas. Oh, d'accord, pardonne-moi. Je suis pas Dieu. Et même, il n'y a personne qui va t'aimer comme tu veux être aimé par une personne. C'est pour ça, il faut monter la montagne et faire quelque chose de très difficile. Oui, moi je t'aime. Et donc il faut le pardon. Dans toute communauté, il faut le pardon. Et il faut pardonner plusieurs fois parce que, voilà, les gens, tu sais, le fait de ne pas être Dieu, c'est pas juste dans des grandes choses. Tu vois, bon, l'autre qui guérit pas, l'autre qui n'est pas super, non, c'est l'autre qui fait pas la vaisselle. D'un côté, mais l'autre qui dit pas bonjour. Mais s'il était Dieu, il aurait dit bonjour. Il n'aurait pas été fatigué. Il n'aurait pas été mal luné. Et donc, juste accepte que l'autre, il va être mal luné. Il va avoir des jours, les ongles, les bains. Et donc, je lui pardonne. Voilà. Et moi, j'ai besoin d'être pardonné par lui parce que moi, je suis pas Dieu. Et donc là, quand on se rend compte de ça, ça aide le pardon. Encore, tu vas dire, voilà, il a le droit d'être pardonné pour ne pas être Dieu. Et donc, je donne mon pardon. Et ça couvre tout, hein. Ça couvre toutes les bêtises de l'autre. Il n'est pas Dieu. Et donc, je le libère par mon pardon. Et lui, il doit me pardonner aussi. Mais, il y a une deuxième partie. C'est dans les deux piliers, le pardon et la célébration. La célébration, la discipline de la célébration. Parce que, il y a quand même une petite partie de Dieu dans l'autre. Quand même. Il n'est pas Dieu 100%. Mais quand même, on peut être reconnaissant pour des moments de lumière qui brillent, ces petites bougies qui brillent chez l'autre. Et quand l'autre m'aime, waouh, c'est comme si cette voix « je t'aime », ce « oui » est incarné dans l'autre. Ça, c'est magnifique. Et là, je célèbre, je dis oh, « merci ». Je prends ça pas comme une vue, mais comme une célébration. Voilà, l'amour. Et c'est ça quand on peut aimer l'autre, quand on peut se donner à l'autre. C'est une célébration. Et ça, c'est la beauté de la communauté. Bien sûr, il y a le pardon. Mais quand vous arrivez en communauté, déjà assez rempli de ce oui de Dieu, je t'aime, c'est beaucoup plus facile d'apporter ce oui à l'autre. Et voilà, oui, moi j'ai le oui, et je dis oui. Bon, il y a les moments, on dit non. Et allez, le pardon. Et là. Mais plus qu'il y a de oui dans l'homme, mais on va pas donner un oui à 100%. Non, pardonne-moi pour mon oui qui n'est pas à 100%. Mais si je peux te donner 50%, célèbre ça. Bon, merci Seigneur, merci. Et moi je célèbre chaque jour. Ma femme m'aime beaucoup, elle me donne beaucoup de oui, beaucoup de... Quelle célébration! Et je veux pas voir ça comme un dû. C'est-à-dire, voilà, c'est normal. on tombe dans l'habitude d'être aimé, les petits gestes, mais de célébrer les choses, de cultiver l'art d'accueillir et de célébrer les gestes d'amour. Et même en communauté, même en église, quand il y a des gens qui font des choses, qui manifestent, des petits services, des pardons, des victoires, voilà, c'est une célébration. Et c'est ça qui nourrit notre adoration. On n'est pas juste en train de chanter, mais on est en train de célébrer, voilà, la vie de l'amour de Dieu dans chacun de nous. Mais cette célébration, voilà, il y a un autre pilier, c'est le pardon, mais il y a la célébration. Parce que quand même dans ce monde déchu, même dans toutes les imperfections, il y a quand même la bougie qui brille. Il y a quand même la vie, dans la vie de l'autre, je reçois aussi l'amour de Christ. Et je peux célébrer ces moments quand ça me touche. Et il y avait deux Français dans les années 1930-40. Et un, il est très connu, c'est Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre. Et lui, il a commencé à développer une philosophie, l'existentialisme. C'est même. Et pour lui, bon, comment je vais dire ça? Bon, si on est tous le sujet de notre monde. Moi, je suis le centre de mon monde à cause de mes. Et l'autre est l'objet. Vous êtes mon objet. Moi, je suis le sujet, vous êtes des objets. C'est inévitable, ça. C'est une sorte de logique. Et donc, il a dit, pour lui, il a dit, tu dois dominer sur l'autre pour exister. Tu ne dois pas laisser les circonstances ou les attentes de l'autre te dominer, mais toi, tu dois être libre, libre de leurs attentes. Et par exemple, pour moi, ce matin, je joue le rôle, à son avis, de pasteur, de gentil pasteur. Mais finalement, je dois m'affranchir de vos attentes. Je dois faire une bêtise devant vous. Voilà, je suis anticonformiste. Mais bon. Et donc pour lui, il dit l'essence de toute relation, c'est le conflit. C'est le conflit. Il n'a pas tout tort, parce que c'est chaque sujet qui essaie de dominer l'autre pour ne pas être assujetti à l'autre. Et donc pour lui, le conflit, bon, c'est pas très édifiant. Et il y avait un autre gars, au même temps, qui s'appelle Emmanuel Levinas. C'était un juif. Et Emmanuel Levinas, il était influencé par l'écriture. Et surtout l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. On dit Ésaü. Et vous savez, quand Jacob, il luttait avec l'ange à Péniel. Et donc Péniel, ça veut dire le visage de Dieu. Et après avoir lutté avec Dieu, il descend un peu dans la vallée et il voit son frère avec qui il est en conflit depuis des années. Et quand il voit son frère, il dit, quand je vois ton visage, c'est comme si je vois le visage de Dieu. Et de cette phrase, Levinas, il a dit, non, non, l'autre n'est pas un sujet ou un objet à dominer. On voit dans le visage de l'autre la parole de Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et il a dit, l'autre n'est pas à démolir, mais l'autre est à accueillir. Et de dire que tu peux même recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut discerner la parole de Dieu sur le visage de l'autre? Tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout évangéliques, on aime la parole. La Bible, on a même fait une fête, c'était quand mardi soir, la Bible et moi, la Bible. Et donc il faut quand même savoir lire pour interpréter la Bible. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui lisent pas, il faut être un petit peu, tu sais, quand tu avais les réformés là, ils parlaient de, je sais pas qui, comment c'était, Origène. Et tout le monde dit, oh, qui est Origène, tu avais parlé de... Comment on doit avoir une manière d'interpréter allégoriquement. Bon, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais quelquefois, ça vole un peu haut. Et je dirais, la Bible n'est pas à tout le monde la lecture. Et si la Bible est, si connaître Dieu était juste limité à notre capacité de maîtriser la Bible, ça serait pas juste d'un côté. Mais j'aime la Bible. Mais je pense que c'est aussi connaître Dieu, c'est aussi notre capacité de lire la parole de Dieu dans le visage de l'autre. Je pense que ça, c'est aussi un art. Et c'est ça où il y a toute la réalité de la vie communautaire. Comme Jésus. C'est Jésus, il ne se promenait pas avec une grande Bible. J'ai ma Bible, je sortais là, chaque moment, sors ma Bible. C'est pas encore écrit le Nouveau Testament. Tu vois, il est en train lui-même de vivre le Nouveau Testament. Il cite pas le Jean, Dieu a tant aimé le monde. Il cite pas ça à Nicodème, hein, il le dit. Et il n'a pas une Bible. Ça sort de lui. Et je pense pas qu'il marche avec tous les rouleaux de la synagogue. Voilà, qui a les rouleaux? Allez, j'ai une prêche, les rouleaux. Non, ça sortait de lui. Et là, bien sûr, la synagogue samedi, il sortait, il lisait. En Luc, il lisait. Mais il les prenait pas avec lui. Voilà, son petite sacoche de pasteur. Voilà, ma Bible évangélique. Et je pense que Jésus, il avait cette capacité de lire la parole dans le visage des pauvres. C'est incroyable. Et même il dit, mais Simon, voilà, tu es Simon, mais toi tu seras Pierre. il pouvait lire même prophétiquement chez l'autre, d'élever l'autre, de ne pas juste prendre ce que le monde avait dit à cette personne, mais de dire, moi je te vois autrement, je lis la parole sur toi. Et je pense que ça, c'est fantastique en communauté, si nous pouvons lire la parole de Dieu sur le visage de l'autre. Essayer d'encourager leur destinée, encourager quelque chose de... Pas d'une manière superficielle, mais très très réelle, très dans la vérité. Et donc moi, je choisis sans hésitation Lévinas. Je veux pas Sartre. Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Tu vois, quelle belle vie de famille il a dû vivre. Tu vois, et on voit ça par sa vie. Je pense qu'il était un gars assez malheureux, finalement. Et je préfère Lévinas, qui était aussi existentialiste. C'est lui qui a porté ça, qui a traduit les livres de Husserl et de Heidegger. Il a traduit tout ça, il a rapporté ça en France. Donc c'est aussi un grand penseur. Mais lui, il a choisi, pas le conflit, mais l'accueil de l'autre. Et je pense dans la vie communautaire, il faut choisir toujours l'accueil et essayer de lire la parole de Dieu dans le visage de l'autre. Et donc, troisième discipline, c'est le ministère. Parce qu'après tout ça, verset 17, il s'arrête sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la région. Et donc là, souvent dans le ministère, vous allez faire le ministère pour des chrétiens, des gens qui sont déjà disciples, qui ont des problèmes, qui vont venir et tout ça. Mais il y a aussi des non-chrétiens, les multitudes. Et là, il y avait les gens qui étaient de Tyr, de Sidon, ils n'étaient pas juifs. Hein. C'était des païens, des gentils. Et nous aussi, c'est beau d'avoir une vie comme ça. Si on est ouvert à cette discipline d'avoir un ministère, mais moi, je veux servir. Je suis ouvert. Pas faire un forcing, hein. C'est pas comme, oh, j'ai absolument, mais d'avoir quand même un côté un peu discipliné pour saisir des opportunités que Dieu nous donne de faire le ministère. Et je pense pour Jésus, je termine avec ça. Je disais, il y avait deux choses dans le ministère de Jésus il y avait beaucoup de choses, hein, mais je limite ça aujourd'hui, deux choses. Je pense que sa force, c'était la compassion. Et on voit aussi en Matthieu 10, à la vue des foules, il en a eu compassion. Et quand Jésus, il y avait toutes ces foules, il n'a pas dit, voilà, allez, on va faire un grand entretien, allez, dis-moi, raconte-moi ta vie. Bon, peut-être il aurait pu, hein, mais je ne vois pas Jésus faire ça. Ce que je vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. J'ai dit, mais waouh, c'est ça le ministère. C'est quand une force d'amour sorte de toi. Est-ce que Jésus était conscient de ça? Je ne sais pas. Lui, il était là. Et les gens tombaient. Je ne sais pas s'il était conscient qu'une force sortait de lui. Et je suis sûr, c'est ici le défi. Une force sorte de chacun de vous. Oh, vous racontez. Non. Si, c'est vrai. Moi, j'ai été, souvent, je suis avec les gens, avec les gars, je faisais partie d'un groupe de jogging. Je ne peux plus le faire parce que c'est dimanche matin. Donc là, c'est, quel sacrifice. Et souvent, je courais avec ces gars. Et tu sais, les jurons, des mauvaises blagues, tout ça. Et, mais quand je commence à jouer, j'ai rien dit. Et le gars, il dit, oh, Jésus, comme ça. J'ai rien dit. Mais il dit, oh, pardon. Et ils arrêtent de jurer. Mais et je pense quelquefois, il y a une force. On est inconscient, mais il y a une force qui sort de nous, même dans des moments d'orage. Quelquefois, on vit des tensions, on vit des choses difficiles autour de nous. Mais il y a une force qui sort de nous. Nous changeons l'environnement spirituel autour de nous, parce que Jésus est en nous. Et plus vous avez la voix qui dit « Je t'aime », et plus vous avez après la compassion dans vos tripes pour les autres, cette force est plus grande. La vraie force du chrétien, c'est la compassion. Et c'est comme une force qui va toucher les gens. Ça touche les gens. Et chacun de vous, vous avez cette force. Et on est souvent ignorant de ça. Sauf si quelqu'un tombe vraiment ou si un démon commence à hurler. Mais ça, c'est plus rare. On n'est pas Jésus. Mais ça peut arriver. Peut-être le jour viendra où vous allez entrer quelque part et les gens tombent. C'est quand tu fais des réunions d'évangélisation et tout le monde est chauffé à bloc. Quelquefois, tu peux toucher, il tombe. Moi, je sais pas si c'est parce qu'on les pousse ou parce que j'essaie quelquefois de tenir les gens pour que les gens disent, une fois je priais, il y avait une grande dame et elle voulait tomber. Je dis, non, allez, j'ai fait mal au dos après, c'était terrible. Mais il y a une force qui sort de nous. Et dans votre famille, croyez que quand vous êtes là, même si c'est la zizanie totale, qu'une force sorte de vous. Et même si, bon, mais c'était terrible, vous m'avez dit, Robert, qu'une force sorte de moi, tout le monde jurait, ça n'a rien changé. Mais moi, je dis, ça aurait été pire si vous n'avez pas été là. Parce que peut-être là, vous pensez que c'était horrible, mais ça aurait été pire. Ça aurait été pire. C'est moi, je connaissais une fois un homme de prière, il priait tout le temps, mais vraiment toute la nuit et tout ça. Et j'étais méchant avec lui un jour. J'ai dit, mais Roland, tu pries tout le temps. Mais regarde, on est toujours dans des situations difficiles. J'ai dit, mais avec toutes tes prières, ça... Il dit, mais Robert, si j'avais pas prié, ça aurait été pire. Ça m'avait marqué. Parce que nous, on pense, oh, c'est terrible ma situation, Dieu n'a rien fait. Mais si tu n'étais pas là, et s'il n'y avait pas cette force qui gérait les choses, ça aurait été pire. Et peut-être un jour, ça serait meilleur. Et un autre jour, ça serait meilleur. Et le ciel s'ouvrirait un petit peu plus. Et on va vivre des choses. Mais une force sortait de Jésus. C'est ça notre ministère. C'est pas toujours d'avoir des bonnes paroles, d'avoir le mot juste. Ça aurait pu être ça. Mais c'est premièrement de changer l'ambiance. C'est de changer le climat spirituel. Et donc... compassion. Et la deuxième chose qui est un peu bizarre, mais je pense que Jésus poussait les gens à être reconnaissants, à avoir la reconnaissance. Il les libérait de l'amertume et de la tristesse. Il dit, voilà, soyez reconnaissants. Et on voit ça avec ces béatitudes. On dit les béatitudes, je pense que c'est latin. Le mot grec, quand il dit heureux, 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 vous êtes heureux, allez, vous êtes heureux, makarios en grec, makarios, c'est pas le macarena, hein, pour les gens, mais vous pouvez penser à macarena, après il dit, oh makarios, c'est, tu dis ça, comme ça, vous allez garder, je vais être heureux aujourd'hui, c'est pas en chantant le macarena qu'on est heureux, c'est en étant aimé par le Seigneur, mais il dit heureux, et après il dit des bêtises, Jésus, vraiment des bêtises. Parce qu'il dit heureux quand vous êtes pauvre. Mais je ne vais pas dire ça à un gars pauvre. Vous êtes heureux. Messieurs, je ne vais pas vous donner comme le monde dit. Non, mais vous êtes heureux. Et après, il dit heureux quand vous avez faim. Vous êtes heureux. Et après, il dit encore une chose. Quelqu'un qui pleure. Il dit heureux, vous qui pleurez. Heureux, vous qui pleurez. Vous serez dans la joie. Et je sais que dans notre monde, dans la mentalité de ce monde, Il y a une énorme distance entre la souffrance et la bénédiction, entre la tristesse et le bonheur. D'accord ? C'est comme si c'est deux mondes. Et soit tu es dans le monde de tristesse, ou soit tu es dans le monde de bonheur. Et les gens, ils veulent pas aller dans le monde de tristesse. Hein. Les médias et tout ça, et même certaines églises triomphalistes, on veut pas voyager là. On veut rester que dans le monde du bonheur. Parce qu'il y a une énorme distance entre les deux. Mais ce qui est bizarre avec Jésus, mais ce qui est glorieux aussi, c'est il n'y a pas de distance de ces deux mondes avec Jésus. Il y a une proximité. Une proximité totale. Totale. Où Jésus, il peut embrasser la souffrance du monde tout en disant « J'ai vaincu et je suis avec toi dans cette souffrance. » Parce que moi, j'ai embrassé la souffrance du monde. Et en embrassant la souffrance du monde, je l'ai transfigurée, je l'ai transformée. Et j'ai apporté la joie au milieu de l'enfer. J'ai apporté la victoire. J'ai sonné la cloche de la résurrection. Et donc, même si vous pleurez, vous pouvez être heureux parce que je pleure avec vous, je suis avec vous. Sentez mon bras autour de toi. Et tu dis, mais en effet, même dans mes ténèbres, le soleil de la justice s'est levé encore avec plus d'ardeur et de brillance. Et c'est ça l'enjeu pour nous. De ne pas laisser dominer par toutes ces pleurs, toutes ces larmes, toutes ces difficultés. Et oui, c'est vrai, je suis là-dedans. Mais je suis heureux. Parce que Jésus est avec moi là-dedans. Et j'entends sa voix. J'entends sa voix. Et cette semaine, j'ai prié pour toutes les horreurs de la République centrafricaine. Il y avait une semaine de prière pour la République centrafricaine. Et chaque jour, je recevais mais des histoires d'horreur. Et là, c'est dur. Tu ne peux pas juste ignorer ça. Mais je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux prendre ça et en même temps dire Alléluia? Et c'est là où Dieu m'a dit, mais il n'y a pas deux pays là, il y a le même pays. Et il dit, s'il n'y avait pas la souffrance, il n'y aura pas non plus une opportunité pour l'amour. Et plus les ténèbres sont épaisses, plus la possibilité de la lumière est grande. Et vous savez, Satan, en écrasant Jésus, il voulait faire le pire mal sur cette croix. Allez, mais quand Jésus, au milieu de ces ténèbres, il a dit, Père, pardonne-leur. Ah, tu imagines, au milieu de l'horreur, quelqu'un a allumé une bougie. Et je lisais, même en RCA, je disais, mais Seigneur, donne-moi une bougie. Et là, je lisais une histoire d'une dame, Zita. Et tu sais, il y a des horreurs, il y a des musulmans, mais ils sont des bandits, ils sont même pas des musulmans. Et il y avait une femme qui avait un bébé. Et elle se trouvait au mauvais endroit, et tout d'un coup, pour une histoire de rien, des Sélécas l'ont tabassée et ils l'ont tuée. Et voilà, cette dame Zita dit, oh, j'ai trouvé, juste, tout le monde a couru loin. Et après, elle est revenue, il y avait un bébé par terre, le bébé de cette femme qui était toujours vivante, juste là, laissé par terre. Et cette femme Zita l'a ramassé et dit, oh, je vais soigner ce bébé. Et j'ai dit, mais voilà. Tu vois l'amour qui a brillé au milieu de ces ténèbres. J'attends le jour du jugement. Je dis, mais Seigneur, tu vas juger le mal. J'attends ce jour de justice, vraiment, où tout le monde sera devant le Seigneur. Mais même déjà, dans ce monde de souffrance, tu as ces actes d'amour qui brillent et qui triomphent. Alors là, je dis, Jésus, quelle folie d'inciter les gens à la gratitude. Dans ce monde de misère, d'horreur. Quelle horreur, quelle stupidité. Mais ça, c'est le ministère de Jésus. De dire, allez, parce qu'il faut beaucoup de foi, n'est-ce pas, d'être heureux dans les larmes. Il faut beaucoup de foi pour être heureux dans la pauvreté. En disant ça, il n'a jamais justifié. Il a combattu la pauvreté, il a combattu la souffrance. Et nous aussi, il ne faut pas accepter bêtement. Il faut combattre toutes ces choses. Mais au milieu de ça, sache que l'homme de douleur, Jésus, habitué à la souffrance, celui qui pleurait au tombeau de Lazare, que c'était aussi un gars qui riait bien. Mais quel, parce que la proximité, il était l'expérience humaine qui est larme et rire. C'est ça l'expérience humaine. C'est Moltmann qui a dit, si nous apprenons à souffrir avec Jésus, nous apprenons également à rire avec lui. C'est Moltmann qui a dit ça, Jürgen Moltmann, théologien. Quand nous apprenons à souffrir avec Jésus, nous apprenons en même temps à rire avec lui, parce que c'est l'expérience humaine et ça élargit le cœur. Au lieu d'être des pierres, des clones, des gens qui n'ont aucun sentiment, qui sont barricadés dans leur défense, dans leur matérialisme, nous sommes accrochés à la vie, accrochés pleinement à la vie, dans ses larmes et dans ses rires. Et ça, c'était Jésus. Et il suscitait cette gratitude chez les gens. Allez, allez, gratitude. Une attitude de gratitude. Et ça, c'était aussi, ça ouvrait le chemin vers la guérison. Ça ouvrait le chemin vers la délivrance de mauvais esprits. Compassion, gratitude. Ça ouvrait, la gratitude, ça ouvre quelque chose. Et les démons, ils détestent vivre dans un cœur de gratitude. Vous commencez à avoir un cœur de gratitude, voilà, c'est la délivrance promise. 100% garantie. Bon, les démons aiment bien. On te ferme, ils râlent. Tiens, ils restent. Avec toutes les, tu peux chasser tout ce que tu veux. Mais merci, merci, merci. Tu es avec moi, Jésus. Ton amour, foum, foum. Voilà, créer un environnement de gratitude et de compassion. C'est la clé du ministère. Et donc voilà, les trois disciplines, solitude, communauté et ministère. Voilà, solitude, entendre cette voix, tu es aimé. Communauté, le pardon, la célébration. Et le ministère, compassion, reconnaissance. Seigneur, nous voulons entrer dans ta journée. Seigneur, aide-nous à vivre avec toi. Seigneur, donne-nous, même si on ne monte pas une montagne, même si on ne passe pas toute une nuit dans la prière, donne-nous ces moments de solitude où nous entendons ta voix. Donne à chacun ici cette semaine des moments de solitude où ils peuvent recevoir vraiment ton encouragement. Et Seigneur, aide-nous à se pardonner mutuellement, mais surtout, Seigneur, aide-nous à célébrer le don de l'amour que tu as mis, la parole sur le visage de mon frère, Seigneur. Et Seigneur, merci. Aide-nous à avoir de la compassion, qu'une puissance sorte de nous, Seigneur, dans nos familles, au travail, là où nous vivons, qu'une puissance sorte de nous pour changer l'atmosphère cette semaine. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.